Eh bien, je vous invite à chercher dans votre Bible le livre d'Ésaïe et le chapitre 56. Ésaïe 56. Et on va faire la lecture des 8 premiers versets. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela et le fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple ». Et que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec ». Car ainsi parle l'Éternel. Aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom, préférable à des fils et à des filles, et je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelé une maison de prière pour tous les peuples. Et le Seigneur, l'Éternel, parle. Lui qui rassemble les exilés d'Israël, je réunirai d'autres peuples avec lui, aux siens déjà rassemblés. Prions Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Elle est la vérité, elle nous instruit, permet que nos cœurs te soient acquis. Attentif, Seigneur, donne par ta grâce à cette parole de se propager au fond de nos cœurs. Nous te prions pour que ton Esprit Saint soit à l'œuvre, Seigneur, dans nos vies, par Jésus-Christ. Amen. Avez-vous déjà vu ce film « La vérité si je mens » le numéro 1. C'est l'histoire de Édouard Vuibert, surnommé Eddy, et qui est joué par Richard Anconina. Et c'est un jeune chômeur qui bat le pavé parisien dans l'espoir de trouver du travail. Et en tentant d'échapper à deux escrocs, après avoir gagné à leur jeu, il tombe sur Victor Benzakem. C'est un patron juif d'un entrepôt de textiles dans le quartier du Sentier. Et en voyant une chaîne avec une étoile de David sur le sol, et puis Benzakem embauche le jeune en pensant à tort qu'il est de confession juive, alors que la chaîne appartenait à l'un de ces deux escrocs. Alors d'abord simple manutentionnaire, Eddy devient un vendeur et gravit rapidement les échelons, se faisant passer pour un juif auprès de ses nouveaux amis et auprès de Sandra, la fille du patron. Eddy se rend compte qu'appartenir à la communauté juive séfarade, c'est le bonheur. C'est en tout cas le seul moyen de faire du business dans le Sentier. Et surtout, c'est le seul moyen d'approcher Sandra, la belle Sandra. Au fond, peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous pensez, vous pouvez être cupide, vous pouvez être hypocrite, vous pouvez même être mythomane comme l'un des amis, ou complètement débauché. Du moment que vous portez la petite étoile de David autour du cou, du moment que vous avez le nom juif séfarade qui va bien, alors vous êtes accepté dans la communauté. Mais ça n'est pas du tout ce que Ésaïe est en train de nous dire ici. Ce n'est pas ce que le prophète dit dans notre passage en ce qui concerne le fait d'appartenir à la famille de Dieu. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas la petite chaîne, ce n'est pas notre passeport. Ce qui intéresse Dieu, c'est notre cœur. Et le prophète Ésaïe, de la part de Dieu, lance trois appels. On voit cela au verset 1, au verset 4 et au verset 8. À chaque fois, il est dit « Ainsi parle l'Éternel ». Trois appels. Trois appels. L'un à la justice, un appel pour les exclus, et puis enfin un appel à l'unité. On va regarder tout d'abord l'appel à la justice. Pensez à cela. Il est dit ici, « Ainsi parle l'Éternel ». L'Éternel parle. Et l'Éternel, il peut pas mentir. L'Éternel, il peut pas nous tromper. Quand il parle, écoutons-le. Dans le verset 1 et 2, il est dit « Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela et le fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. » Nous devons lire ce chapitre et les suivants d'ailleurs à la lumière du sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, hein, du serviteur de l'Éternel qu'on a lu en Ésaïe 53, le verset 6, il est dit « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » C'est à la lumière de cette parole d'Ésaïe 53 que l'on peut comprendre ce que c'est que mener une vie juste. Nous devons nous souvenir que Dieu n'a pas donné la loi à Israël comme une échelle à grimper, vous savez, une échelle qui nous permettrait d'accéder jusqu'à Dieu. Non, ça ne sert à rien de faire cela. L'échelle est bien trop courte. Toute notre justice, dit Ésaïe, n'est qu'un vêtement souillé, c'est-à-dire impur, c'est-à-dire comme les vêtements des lépreux. Et on voudrait approcher de Dieu avec une telle justice. C'est impossible. Ça, c'est la voie des religions humaines qui cherchent à paraître bien au travers d'une pratique religieuse. Mais Dieu n'est pas impressionné par notre religiosité. Vous vous souvenez, le peuple était esclave en Égypte. Il a d'abord été racheté par le sang d'un agneau, l'agneau pascal, simplement par grâce, par le moyen de la foi exprimé par l'application de ce sang sur leur maison. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'il est aussi question ici, dans les versets 2, 4 et 6, de ceux qui gardent le sabbat, ou les sabbats. Le sabbat a été donné notamment pour commémorer la délivrance de l'esclavage de l'Égypte. En Deutéronome 5, il est dit au verset 15, « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. » Le sabbat, c'était simplement se reposer sur ce que Dieu avait accompli lui-même, sur le travail de Dieu, sur l'œuvre de Dieu. Le repos auquel nous sommes appelés, le jour du sabbat que nous sommes amenés à observer, c'est simplement de se confier dans ce que Jésus-Christ a accompli à la croix pour nous. C'est cela qui nous donne du repos. On en a fini avec nos œuvres, on en a fini avec nos efforts pour plaire à Dieu. Pour se rendre acceptable, efforts qui sont jamais suffisants. La loi, les 10 commandements notamment, a été donnée après la sortie d'Égypte, à des personnes qui étaient déjà rachetées. Néanmoins, l'obéissance à la loi et à la justice éthique est la marque de la réception de la grâce salvatrice de Dieu. C'est parce que nous avons reçu la grâce, c'est parce que nous avons été rachetés simplement par l'amour de Christ, le sang versé, que nous sommes appelés et nous sommes rendus capables d'obéir et de suivre sa loi. Et cela, ça produit une vie nouvelle, ça produit une communion avec Dieu, une communion joyeuse avec l'Éternel. De plus, en adoptant un comportement juste, les croyants annoncent la justice à venir, la justice ultime. Vous avez vu ça dans le verset 1, il dit « Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester ». Le fait que nous cherchions à mener une vie juste, ça rappelle, c'est parce que nous nous rappelons qu'il y a un jugement dernier. Et ça rappelle à tous les autres qu'il y a un jugement dernier auquel ils ont besoin de se préparer. Dieu amènera tout homme en justice pour répondre de ses œuvres. Alors, la manière dont nous vivons dit beaucoup sur l'état réel de notre relation avec Dieu. La manière dont nous vivons influence notre entourage. Si vous vivez dans une désobéissance, vous entraînez probablement quelqu'un d'autre dans cette désobéissance, dans votre égarement. Vous les encouragez à la désobéissance parce que votre vie dit « c'est pas si grave, Dieu ne voit pas, Dieu ne prête pas attention à ma vie ». Si par contre, vous vous repentez, si vous agissez avec droiture, vous montrez aux autres la voie de la justice. Heureux l'homme qui fait cela, nous dit le verset 2. La plus belle preuve d'amour que vous pouvez donner à votre entourage, c'est une vie qui recherche la justice. Enfin, la justice manifeste la réalité de notre salut. Si notre adoption dans la famille de Dieu ne change pas notre comportement à la ressemblance du chef de famille, il y a de bonnes raisons de mettre en doute la réalité de notre adoption. La preuve de notre appartenance à la famille de Dieu, c'est notre vie d'obéissance joyeuse. Notre justice ne nous gagne pas le royaume, mais elle est la preuve positive que nous sommes passés du royaume des ténèbres à sa lumière. Il n'y a pas d'autre preuve. Ne cherchez pas d'autre preuve. Le deuxième appel est un appel qui est adressé aux exclus dans les versets 3 à 7. Ainsi, le fait d'être né dans une famille chrétienne ne fait pas de nous des héritiers de Dieu. C'est par la conversion à Christ, par la foi dans le serviteur de l'Éternel, qui a pris sur lui notre condamnation, que nous sommes acceptés dans sa famille. C'est le sens des versets 3 à 6. Il dit que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple » ou que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec ». Si vous n'appartenez pas au peuple d'Israël, si des prescriptions de la loi vous excluaient, comme c'était le cas pour les eunuques de l'Assemblée d'Israël, vous êtes malgré tout les bienvenus. Parce que c'est ceux qui s'attachent à l'Éternel, verset 3, ceux qui choisissent ce qui est agréable à Dieu, verset 4, celui qui aime le nom de l'Éternel, verset 6, qui est le bienvenu. Peut-être comme l'eunuque éthiopien, dans la traduction de Boris, ça faisait partie de, et c'était, il était mentionné un haut fonctionnaire ou un, et c'est tout à fait juste. Mais le mot ici, c'est vraiment eunuque. Et ce qui faisait des hauts fonctionnaires de fidèles ouvriers, de fidèles serviteurs, c'était aussi parce qu'ils étaient eunuques. Et là, il est dit que cet eunuque est venu à Jérusalem. Et peut-être que cet eunuque a conclu que le christianisme n'était tout simplement pas pour des gens comme lui. Il aurait pu dire à Philippe, mais je suis venu à Jérusalem. À Jérusalem, j'ai pas vu de gens comme moi. Ils sont pas de la même couleur que moi. Moi, je suis d'un royaume d'Afrique. Je ne fais pas partie de la race élue de Dieu. Et en plus, je suis un eunuque. Et votre loi dit que les eunuques n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel, Deutéronome chapitre 23, verset 1. Je ne serai jamais alors un enfant de Dieu à part entière. Vous vous souvenez ce que lisait l'eunuque sur son char? Il lisait Ésaïe 53, versets 7 et 8. Et à partir de ces versets, Philippe lui a expliqué tout ce qui concernait Jésus. Peut-être a-t-il poursuivi jusqu'au chapitre 56 et au verset 3. Peut-être qu'il lui a pu lui lire que l'étranger, l'Éthiopien, qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple ». Et que l'eunuque ne dise pas « Je suis un arbre sec ». Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques, qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable, qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et peut-être, Philippe a-t-il dit, « Vois-tu, mon ami, si tu viens à Christ, si tu t'attaches à l'Éternel, tu peux avoir un meilleur nom que des fils et des filles. Tu peux avoir un nom éternel. Même les eunuques peuvent venir à Christ et entrer dans la famille de Dieu. » On ne sait pas si Philippe a mentionné ces versets, mais je pense que c'est vraiment probable qu'il l'ait fait. En tout cas, c'était une bonne nouvelle pour l'eunuque. L'offre de l'Évangile est pour tous. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, avait dit Ésaïe au chapitre 55. Nous célébrons aujourd'hui la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est le jour où le Saint-Esprit, 50 jours après la résurrection, est descendu sur les premiers chrétiens pour les unir dans une même famille, l'Église. Depuis, chaque personne qui croit en Christ est ajoutée à cette famille. Ce jour-là, alors, que les Juifs de toutes les nations étaient réunis à Jérusalem, le Saint-Esprit a donné aux disciples galiléens de parler des merveilles de Dieu dans toutes les langues qu'ils n'avaient pas apprises. C'était une manière de dire « Le message est pour toutes les nations. Le message est pour tous les peuples. » Et ils ont bien compris ainsi le message. En rentrant dans leurs différents pays, les Juifs venus à Pentecôte à Jérusalem ont annoncé l'Évangile de sorte que des églises ont vu le jour dans toutes ces régions. Dieu avait toujours eu en tête le salut de toutes les nations, de tous les peuples. À Abraham, il avait dit, il avait promis que toutes les nations seront bénies en sa postérité. Il a même fait entrer Rahab, la Cananéenne, et Ruth, la Moabite, dans la généalogie de Jésus. Salomon, le roi, lors de la dédicace du temple, a fait cette prière. En 1 Roi 8, versets 41 à 43, il dit « Quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. » Plus tard, Jésus va rentrer dans ce temple et il va chasser les vendeurs parce qu'ils sont en train d'occuper l'espace qui était réservé pour les nations, pour les étrangers. Et il cite à propos cette parole d'Ésaïe 56, verset 7, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Et vous en avez fait une caverne de voleurs. Dieu ne regarde pas à votre nationalité. Dieu ne regarde pas à votre état civil, mais Dieu regarde à votre cœur et il invite tous ceux qui croient en lui à entrer dans sa famille et à jouir de sa famille. Je voudrais faire quelques applications. Peut-être, vous n'êtes pas né dans une famille chrétienne. Vous n'avez pas le vocabulaire. La culture chrétienne, vous ne l'avez pas non plus. Vous ne connaissez pas les cantiques quand vous venez ici, ni les manières de faire. Vous êtes les bienvenus dans le peuple de Dieu dès l'instant où vous placez votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Dieu regarde à votre cœur. Peut-être vous êtes par votre parcours de vie abîmé par le péché. Vous avez fait de mauvais choix. Vous portez peut-être des cicatrices sur vous-même, dans votre cœur, des blessures du passé. Et peut-être vous pensez que c'est pas pour moi. Mais vous êtes les bienvenus dans la famille de Dieu. Pour peu que vous placez votre confiance en Jésus-Christ. Vous êtes bienvenus dans la famille de Dieu, non pas comme des observateurs, non pas comme des invités, comme quand vous venez chez moi, mais comme des fils et des filles, comme des héritiers. Un mot aussi à nous autres chrétiens. Comment regardez-vous celui qui vient les bras couverts de tatouages ? Ou avec un look gothique. Des personnes qui, visiblement, n'ont pas un arrière-plan évangélique. Que Dieu nous garde. À moins qu'on regarde au fond des cœurs, comme l'Éternel, on va faire des erreurs. J'aimerais aussi donner un mot pour les célibataires. Dans un monde où tout tourne autour de la relation amoureuse, autour de la famille, être solo, ne pas avoir d'enfant, c'est un peu comme rester sur le bord du chemin, regarder les autres avancer. Mais ça n'est pas du tout ce que le Seigneur dit, verset 5. Dieu promet à ceux d'entre vous qui restent célibataires en Christ des bénédictions meilleures que les bénédictions du mariage et des enfants. Vous pouvez dire et démontrer par vos vies, le temps de votre célibat, que Jésus-Christ est suffisant. Le mariage ici-bas, c'est juste une image d'une réalité plus belle, l'union de Christ et de son Église. Ainsi, l'instant où nous entrerons dans la présence de Dieu, nous n'aurons plus besoin de l'image, puisque nous vivrons la réalité glorieuse face à face. Imaginez si vous êtes fiancé, que votre fiancé vous a envoyé une photo d'elle, de lui. Le jour du mariage, vous regardez pas votre photo. Ça n'a pas de sens. Vous regardez votre bien-aimé. Et c'est pareil pour nous. Le mariage ici-bas, c'est juste la photo. Un jour, nous le verrons face à face. Comment est-ce possible? Regardez ce qui est dit du serviteur de l'Éternel en Ésaïe 53. Il dit, au verset 10, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Sa vie offerte lui permet de voir une postérité, de nombreux fils et filles qui placeront en lui leur confiance. En d'autres termes, le nouveau peuple de Dieu, formé par le Messie, ne sera pas formé par la procréation physique, mais par la mort expiatoire de Christ. Ce qui peut lui permettre de dire en Ésaïe chapitre 54, regardez, on verra ça la semaine prochaine, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les filles de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confus. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom et son Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. » Dieu montre que sa postérité, celle qui compte véritablement, n'est pas celle que l'on produit. L'Église ne grandit pas par des naissances, mais par des nouvelles naissances, par des hommes et des femmes qui partagent l'Évangile. Le mariage et la famille sont temporaires. Ils sont pour cet âge. L'Église, elle, est éternelle. Les relations en Christ sont plus permanentes et plus précieuses que les relations dans les familles. Et bien sûr, c'est merveilleux quand les relations dans les familles sont aussi les relations en Christ. Mais nous savons que ce n'est pas toujours le cas. L'eunuque éthiopien, en acte 8, est devenu probablement le premier évangéliste en Éthiopie. Et il a une postérité. La famille de Christ en Éthiopie. Enfin, le dernier appel porte à l'unité, nous invite à l'unité dans le verset 8. Dieu est en train de rassembler une famille issue de tous les peuples. Ils ont les mêmes privilèges. Au verset 7, ils sont tous conduits sur la montagne sainte de la présence de Dieu. Ils sont tous réjouis par Dieu. Comme les autres dans la maison de prière. Dieu entend toutes nos prières et les exauce lorsque nos cœurs se confient en Christ et dans son œuvre à la croix. Leurs holocaustes et leurs sacrifices sont tous agréés et sur son autel. Dieu ne fait pas de favoritisme, il est intéressé par nos cœurs. Il n'y a pas de chrétien qui voyagerait en première classe et puis d'autres en deuxième classe ou en troisième classe. Nous jouissons tous des mêmes privilèges, parce que tout nous est acquis simplement par la foi dans le service de Jésus-Christ à la croix. Paul dit aux Galates, chapitre 3, verset 26, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Christ. Nous recevons par la foi en Christ le même esprit. » Et Paul dit encore en 1 Corinthiens 12, « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. » Et nous avons tous été abreuvés dans un seul esprit. Il y a plusieurs membres, mais il y a un seul corps. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Voyez, l'œuvre de l'Esprit Saint, ça a été de nous unir les uns aux autres. Nous sommes unis dans le corps de Christ dont il est la tête. Et nous serons éternellement réunis. Voilà ce qui glorifie Dieu, de montrer à la face de ce monde que nous sommes un seul corps, un seul et même peuple. Naturellement, Nous regardons aux apparences, mais l'Éternel regarde au cœur. Le film, La vérité si je mens, met en évidence le communautarisme juif séfarade. Peut-être est-il exacerbé par le fait qu'ils n'ont pas eu de pays pendant 1900 ans ou par l'antisémitisme dont ils ont été victimes et dont ils sont encore victimes. La réalité, c'est que nous avons tous cette tendance à nous replier sur notre communauté pour partager une identité commune. Les jeunes versus les vieux, les herbusiens versus les sous-traitants, les Antillais versus les métros ou les Africains, les célibataires versus les couples et les familles. Mais l'instant où l'on entre dans la famille de Dieu par la foi en Christ, nous recevons une même, une seule identité qui prime sur toutes les autres. Votre carte d'identité ne dit pas si vous êtes marié, célibataire ou divorcé. Votre carte d'identité ne mentionne même pas votre métier, ni votre salaire annuel. Elle ne précise pas si vous avez des enfants ou pas, ni votre performance aux 10 kilomètres. Alors ne cherchez pas votre identité dans ces choses. Votre carte d'identité parle de votre nationalité, de votre nom et de votre naissance. Votre identité spirituelle réside dans votre citoyenneté céleste, dans le nom de chrétien qui vous a été donné par la foi, dans la nouvelle naissance que vous avez connue lorsque vous avez cru. Elle concerne votre cœur et cette identité-là, elle est éternelle. Finalement, Eddie s'est dévoilé comme un goy, comme un non-juif. Immédiatement, Sandra l'a blacklisté. Il a été rejeté. Et puis, à la fin du film, elle finit par reconnaître que c'est le cœur qui importe. Et ils se marient et ils fondent une famille. Oui, l'Éternel regarde à notre cœur. Je termine avec deux questions. Faites-vous partie de la famille de Dieu? Sinon, pourquoi ne pas croire en lui aujourd'hui? Reconnaître que vous êtes pécheur, que vous méritez d'être rejeté par lui, ce qui est le pire, mais que Dieu vous a aimé en Christ. Il a pris votre place et a payé pour vos péchés. Ne dites pas « ça n'est pas pour moi ». C'est pour vous. Et manifestez-le en vous faisant baptiser. C'est une manière d'affirmer « je suis de la famille de Christ ». Et venez m'en parler. Aux autres, faites-vous ce qui est juste. C'est-à-dire, ce qui est juste, c'est de considérer le cœur. Connaissez-vous vos frères et sœurs? Votre cercle relationnel est-il communautaire? Vos affinités sont-elles uniquement d'ordre professionnel, sportive, ou selon l'état civil? Solo, marié, divorcé, avec ou sans enfant, ou l'âge? Dans les 5 minutes après la fin du du cantique que l'on va chanter. Je vous propose d'aller saluer et parler à des personnes que vous ne connaissez pas vraiment. Et plutôt que de leur demander ce qu'ils font dans la vie, demandez-leur ce qu'ils aiment ou ce qui leur a parlé ce matin ou ce qu'ils ont trouvé difficile cette semaine. C'est-à-dire, intéressez-vous à leur cœur, à ce qu'ils vivent. Amen. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole, elle est la vérité. Quand tu parles, que pouvons-nous faire d'autre que de prêter attention, d'écouter? Seigneur, viens à notre aide pour que l'on puisse, à ta ressemblance, s'intéresser au cœur avant de s'intéresser à ce qui frappe nos yeux. Pardonne-nous, Seigneur, cette attitude qui consiste à être amis avec seulement ceux qui nous ressemblent. Permets-nous, Seigneur, de te glorifier vraiment par la puissance du Saint-Esprit qui nous unit avec ceux qui ne nous ressemblent pas, mais qui sont tes enfants, qui sont de notre famille, avec lesquels nous passerons l'éternité. Béni sois-tu, Seigneur, de nous réunir en Christ de la sorte, parce qu'on a tellement besoin, Seigneur, d'être accueillis à nous-mêmes. Merci, Seigneur, de l'avoir fait pour nous, sans avoir regardé à nos mérites, mais d'avoir regardé à notre cœur tellement nécessiteux et d'avoir pourvu à notre justice en Jésus-Christ. Amen.